Chapitre 13. Pierre Fernault agit. Lorsque Margaret Drake, quelques jours auparavant, s'était brusquement aperçue de la disparition de Pierre Fernault, son mystérieux interlocuteur accroché aux grilles défendant le hublot de sa cabine, elle s'était demandé s'il était prisonnier ou tombé à la mer. Ses suppositions s'étaient peu à peu changées en certitudes dans l'esprit de la malheureuse jeune fille. Elle s'était dit que si le second du Grand Pouce l'eût pu, il lui donnait de ses nouvelles. Le jeune Canadien, en effet, eut sûrement tout bravé pour faire savoir ce qu'il devenait à la prisonnière, pour qui il avait déserté son navire, et s'était jeté au-devant des pires périls. S'il n'avait plus donné signe de vie, c'était qu'il ne l'avait plus, c'était qu'il était mort ou prisonnier. Or, comme Kessler n'avait jamais fait allusion au pauvre garçon, c'était que Pierre Perrault n'était plus tombé dans ses griffes, autrement dit qu'il était mort. Margaret avait accepté ce nouveau malheur avec un profond sentiment de tristesse et de regret, et aussi de remords. C'était pour tenter de la sauver que le jeune Canadien était allé au-devant de sa fin. Puis les événements s'étaient précipités et Margaret, pliant sous les coups du destin, n'avait plus songé qu'à mourir dignement avec son père. Mais Pierre Fernault n'était ni mort ni prisonnier. Tandis que, suspendu par les poignets aux grilles de fer du hublot, il écoutait Margaret raconter sa tragique histoire, il avait senti un très léger tressaillement de la corde qui lui avait servi à se laisser glisser le long de la coque du yacht et dont il avait noué l'extrémité autour de ses aisselles afin de s'en servir pour remonter sur le pont. Il avait brusquement levé la tête et, malgré les ténèbres de la nuit, avait distingué, penché sur la rambarde, un gaillard aux formes athlétiques. L'homme tenait en main un couteau dont l'acier brillait dans l'ombre, et il se servait de ce couteau pour couper doucement la corde de Fernault. Mais pourquoi agissait-il ainsi? Pourquoi n'appelait-il pas? Fernault ne devait jamais le savoir. Peut-être que l'homme était simplement une de ces brutes perverses, comme il s'en trouve tout par le monde, et se réjouissait-il à l'idée de précipiter doucement à l'eau l'individu suspendu le long de la coque de l'Adler. Il obéissait sans doute au sentiment qui fait que le chat joue avec la souris avant de l'achever. Il voulait garder pour lui seul le spectacle de sa victime dégringolant dans l'eau noire. Quoi qu'il en fût, sans tenter de s'expliquer le mobile de l'inconnu, agit, dit-il instantanément. Ayant appuyé le pied contre la coque du navire, il détendit ses jarrets de toutes ses forces, ce qui le lança à plus de 2 mètres en avant, contre le socle supportant le porte-manteau d'une embarcation. La secousse fut si brusque que la corde, déjà entamée profondément, se rompit. Mais Fernault avait déjà refermé ses mains musclées autour de la base du porte-manteau. Avec une agilité de singe, il grimpa le long de l'énorme tige de fer, si vite qu'il fut sur le point avant que l'inconnu, qui avait coupé la corde, eût le temps de s'éloigner ou de crier. Ce qui se passa ensuite ne fut pas moins rapide. Fernault, comprenant que l'homme allait appeler, arracha un des cabillots de fer planté dans la lisse, et le lui abattit de toutes ses forces sur le crâne. L'inconnu tomba sans même pousser un cri. Pierre Fernault jeta un regard aux alentours. La coursive était déserte. Il saisit une drisse, attacha le corps du bandit à son extrémité et doucement le descendit le long du bord. Quand le corps fut prêt de toucher l'eau, Fernault, à l'aide du couteau que son ennemi avait laissé tomber sur le pont, trancha la drisse dont l'extrémité fit entendre un léger claquement en fouettant la surface de l'eau entraînée par le corps. Et ce fut tout. L'ancien second du Grampus laissa alors échapper un sourire de soulagement. Il avait vu la mort de près. Il passa dans sa ceinture le couteau avec lequel il venait de couper la drisse, et resta quelques courts instants immobile à réfléchir. La courte conversation qu'il avait d'avoir avec Margaret Drake avait eu du moins cet avantage de le renseigner. Il savait où il se trouvait. Il connaissait les ennemis qu'il allait avoir à combattre. Car Pierre Fernault, sans même avoir eu besoin de se l'affirmer, était maintenant plus que jamais décidé à délivrer Margaret Drake et son père et à purger le monde du sinistre bandit qui les retenait dans son pouvoir. Mais pour tout cela, il fallait vivre d'abord. Et vivre, cela signifiait échapper aux recherches de Kressler et de ses acolytes. Les bandits, en constatant la disparition d'un des leurs, effectueraient des recherches dans tout le navire, ce qui allait compliquer la situation de l'ancien second du Grampus. Oh, j'ai mal fait de le tuer, maugréa le jeune Canadien. Mais je pouvais agir autrement. Un dernier regard autour de lui et il se mit en marche vers l'arrière du navire à la recherche d'une cachette. En quelques pas, il eut atteint l'extrémité de la coursive. Avant d'en quitter l'ombre protectrice, il regarda devant lui. Personne. Entre le rouffle central du petit yacht et la culte servant à contenir les câbles, s'étendait un étroit espace libre encombré de caisses et de ballots, évidemment embarqué à Imashima. Pierre Fernault, se glissant entre ses colis, parvint jusqu'au panneau fermant la cuve. Son parti fut pris aussitôt. C'était dans la cuve qu'il se cacherait. Il souleva sans peine une des plaques de froid fermant l'ouverture et, à tâtons, découvrit une échelle de fer fixée contre la paroi de tôle. Il en descendit les premiers échelons, referma sur lui le panneau et reprit sa descente. Il arriva vite au fond de la cuve et constata qu'elle était vide. Il s'assit sur le parquet de tôle pour réfléchir. La cachette qu'il venait de choisir n'était évidemment pas très sûre, mais il se sentait trop épuisé pour en chercher une autre, pour le moment du moins. Et puis, le jour n'allait pas tarder à revenir. Après s'être reposé pendant quelques instants, il se dressa et doucement, à tâtons, fit le tour de son nouveau logis. Des morceaux de câbles pourris et rouillés par l'eau salée, des poulies, des cordages de toutes sortes traînaient un peu partout. La cave n'avait pas dû servir depuis longtemps et semblait maintenant être utilisée comme magasin de débarras. À différentes reprises, Fernault faillit tomber en heurtant du pied des touques vides ayant contenu du pétrole ou de la peinture. Par prudence, il se glissa sur un amoncellement de bidons, de poulies et de cordes en décomposition, et, se fiant à sa chance, ferma les yeux et s'endormit. À son réveil, la première chose qu'il vit fut une mince raie de lumière filtrant entre deux paumes remontant le panneau. C'était le grand jour. Des bruits de voix parvinrent jusqu'à lui, mais indistincts. Il ne put saisir un seul mot. Il résolut d'attendre la nuit pour se mettre en campagne et aussi pour chercher à se procurer de quoi manger. La journée fut tranquille, nul ne descendit dans la cuve. L'obscurité revenue, Fernault, doucement, grimpa le long de l'échelle de fer et souleva un des panneaux. Il ne vit personne. Rassuré, il sauta sur le pont. Ayant atteint le large escalier de bois conduisant sur le rouffle central, il le gravit. Il n'eut que le temps de se jeter sous une embarcation. À quelques mètres de lui, deux hommes apparaissaient. Ils marchaient doucement et semblaient plonger dans une profonde discussion. Ce fut grâce à cette circonstance qu'ils n'aperçurent pas l'ancien second du Grampus. Ils passèrent devant lui sans s'arrêter. Et ces deux hommes, c'étaient Kressler et Marbourg. Fernault eut le temps d'entendre cette phrase prononcée par Marbourg. « Le compartiment a été placé un peu trop près de la machine. C'est ce qui explique la difficulté d'obtenir une température constante. Le manomètre... » Ce fut tout, les deux hommes étaient passés. Mais Fernault, en rapprochant ses paroles de ce que lui avait dit Margaret Drake, en conclut que le compartiment dont venait de parler le bandit était celui dans lequel, d'après Miss Drake, le diabolique Ressler retenait ses victimes. Le détail avait son prix. Ferdo résolut de ne pas l'oublier. Pendant le restant de la nuit, il erra sur le pont à la recherche d'abord de quelque nourriture. Il finit par découvrir une caisse à eau, ce qui lui permit de s'abreuver largement. Quant à manger, ce fut plus difficile. La cambuse de l'Adler était située à l'avant. Ferdo l'eut vite trouvée, seulement elle s'ouvrait non loin du poste d'équipage, et le Canadien eut peur d'être surpris par quelques marins en s'en approchant. Il revint vers l'arrière et réussit à s'introduire dans le salon. De là, il passa dans l'office. Hélas, les armoires étaient toutes fermées à clé. La méfiance régnait à bord de l'Adler. Ferno fut bien heureux de découvrir un quignon de pain et une soupière à demi remplie de choux au lard. Encore n'osa-t-il en manger qu'une petite partie malgré sa faim, car il craignait de donner l'éveil si son larcin était découvert. Appréhendant d'être surpris s'il remontait sur le pont, il se glissa dans un coffre rempli de linge sale où il eut la chance de ne pas être dérangé. Pendant les jours suivants, il ne put rien tenter, et ce fut tout juste s'il ne fut pas découvert. Sur quoi survint le cyclone. Tandis que l'Adler, devenu le jouet des flots, tanguait et roulait sur l'océan démonté, Ferno résolut d'en profiter pour délivrer, si possible, les prisonniers. Au risque d'être surpris et tué, il descendit à l'intérieur du navire et se dirigea vers l'endroit où il avait calculé que se trouvait la cabine servant de prison à Margaret Drake. Il y arriva sans avoir rencontré homme qui vive. Les marins étant tous sur le pont, et d'un formidable coup d'épaule enfonça la porte. Il reconnut les deux hublots grillés, mais constata que la cabine était vide. Furieux et désappointé, il sortit. Le roulis et le tangage étaient si violents qu'il fut à plusieurs reprises projeté contre les cloisons. Sa connaissance de la mer lui fit comprendre la terrible position dans laquelle se trouvait l'Adler. Il sentit que le petit navire était perdu, ou à peu près. Et cette pensée décupla son audace. Il n'avait plus rien à ménager. Son couteau au poing, il se dirigea vers l'arrière en se cramponnant aux mains courantes fixées aux cloisons. Mais soudain, une porte s'ouvrit, juste au moment où il passait devant. Un homme jaillit, pour ainsi dire, de l'ouverture. Il tenait un énorme jambon sous son bras gauche, une petite outre de peau de bouc bien gonflée était suspendue à son cou. Cet homme, Ferno le reconnut instantanément, bien qu'il eût à peine entrevu. C'était celui qui, l'autre nuit, s'était plaint que le compartiment avait été placé trop près de la machine. C'était Marbot. Ferno, sans hésiter, lui sauta à la gorge et le colla contre la cloison. Lui serrant le cou d'une main, il lui approcha de l'autre son couteau de la poitrine. « Lève les pattes, gronda-t-il, ou tu es mort !» Marbourg était tout ce qu'on voudra, sauf un homme courageux. Il se vit à la merci de son terrible adversaire et obéit sans hésitation. Ferno, sans cesser de le maintenir solidement, à l'aide de sa main gauche, se servit de l'autre pour lier les poignets. « Maintenant, reprit-il, tu vas me conduire dans le compartiment où sont les prisonniers, et autre chose si tu tiens à ta sale peau. » Marbot tenait à sa sale peau. Il y donnait beaucoup. Et de plus, les paroles de Ferno lui faisaient croire que le Canadien n'ignorait rien de la situation des prisonniers. Or, il balbutia, « Je ferai ce que vous voudrez. Avance alors !» Le bandit, maintenu par la poigne de fer de l'ancien second du Grampus, avança en titubant. Son jambon était tombé sur le parquet, mais dans sa terreur, il n'en se souciait pas. « Dépêche, hein ?» gronda Ferno, en piquant le misérable à l'aisselle de la pointe de son couteau. Au Marbot n'avait pas besoin de cette injonction. Docilement, il amena son compagnon devant la porte du compartiment frigorifique qu'il ouvrit. Fernaud, effaré, distingua quatre corps inertes étendus sur un tapis de liège, et parmi eux Margaret Drake. Oh, il ne s'attarda pas en de longues phrases. « Tu as ranimé ces personnes, canaille, hurla-t-il. Si dans 5 minutes c'est pas fait, je t'égorge. » Marbourg comprit que ces paroles représentaient l'exacte vérité. D'une voix tremblante, il expliqua le plus clairement qu'il put que 3 heures au moins étaient nécessaires pour amener à une température normale les victimes de Gressler et le ranimer. Fernaud comprit que le misérable disait vrai. Il accorda le délai demandé. 3 heures. 3 heures d'angoisses affreuses. Et tandis que le yacht, lancé au plus fort du cyclone, exécutait de fantastiques soubresauts, Fernaud, immobile, la main crispée sur un pistolet automatique qu'il avait trouvé dans le compartiment, fit Marbourg manœuvrer ses robinets et ses vannes. Le bandit que Fernaud avait délié avait porté les 4 victimes de Gressler dans une sorte de boîte carapaçonnée de liège et dont il avait refermé la trappe sur eux. À cette boîte aboutissaient plusieurs tuyaux auxquels étaient fixés des manomètres et des thermomètres. Marbourg, se tenant à peine debout, tant les bonds du navire se faisaient violents, ne cessa de contempler les cadrans indicateurs, ouvrant ou fermant de temps à autre un des mystérieux robinets. À 3 pas de lui, Fernaud, immobile et muet, le regardait.